BriefMe, édition du 5 avril 2024.
Dans BriefMe aujourd'hui, Israël face aux pressions américaines, une tarification saisonnière de l'eau et des photos d'éclipses solaires.
On rembobine.
Éducation. Le concours pour devenir professeur des écoles, CRPE, ne sera plus seulement accessible après un master, Bac plus 5, mais dès la fin de la licence, a annoncé aujourd'hui le président de la République, Emmanuel Macron. Une licence spécialisée, centrée sur les mathématiques, l'histoire-géographie et le français, sera proposée aux étudiants souhaitant passer le CRPE. Une fois admis, ils pourront suivre un master professionnalisant avec des stages rémunérés en école primaire, a-t-il précisé.
Insecticides. La ministre déléguée à l'agriculture, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé ce matin sur France Bleu Nord des dérogations pour que les betteraviers puissent utiliser davantage un pesticide anti-pucerons. Ils pourront effectuer cette année jusqu'à 5 passages du produit phytosanitaire Movento contre 2 actuellement. Cette année, avec l'hiver doux, nous avons un trait au risque de multiplication des pucerons, a-t-elle expliqué.
Agriculture. L'Assemblée nationale a voté hier soir en première lecture une proposition de loi écologiste instaurant un prix minimal d'achat pour les productions des agriculteurs, par 88 voix contre 66 et 13 abstentions. Au Salon de l'agriculture, en février, Emmanuel Macron s'était prononcé pour des prix planchers, mais les élus de la majorité présidentielle ont voté contre le texte après que le gouvernement a jugé inopérant le dispositif soutenu par les élus de gauche. Le texte doit désormais être examiné par le Sénat.
Terrorisme. Abu Maria al-Qahtani, l'un des fondateurs du groupe djihadiste Front al-Nosra, devenu Ayat Tahrir al-Sham, a été tué hier dans un attentat suicide en Syrie, a annoncé hier soir son groupe. Celui-ci a accusé l'organisation djihadiste État islamique d'être responsable de cette lâche attaque, selon Reuters et l'AFP. Après avoir été emprisonné 7 mois pour trahison, Abu Maria al-Qahtani avait été libéré et blanchi par son groupe le 7 mars.
Cyclisme. Le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, s'est inquiété aujourd'hui sur France Bleu Nord de la vitesse des cyclistes professionnels après une violente chute ayant impliqué hier plusieurs coureurs, dont le double vainqueur du Tour de France, Jonas Vingegaard, lors du Tour du Pays Basque. Christian Prudhomme s'est montré favorable à un comportement plus responsable des coureurs, à des vélos qui vont moins vite ainsi qu'à des aménagements routiers.
Tout s'explique.
Israël va ouvrir un passage pour l'aide humanitaire vers Gaza.
L'annonce d'une livraison temporaire d'aide humanitaire suit des pressions américaines.
62% des habitations de la bande de Gaza ont été détruites depuis le début du conflit.
Quelles sont les dernières annonces d'Israël et des États-Unis ?
Le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a annoncé aujourd'hui qu'Israël allait permettre la livraison temporaire d'aide humanitaire à destination de la population de la bande de Gaza via l'ouverture d'un point de passage au nord du territoire, fermé depuis le 7 octobre. Cette annonce survient après que le président des États-Unis, Joe Biden, a affirmé hier lors d'un échange téléphonique avec son homologue israélien que la politique américaine à l'égard d'Israël serait déterminée par les mesures tangibles mises en place pour protéger les civils palestiniens et les travailleurs humanitaires, selon des propos rapportés par la Maison-Blanche. Lundi, sept collaborateurs de l'ONG américaine de distribution alimentaire World Central Kitchen ont été tués dans une frappe israélienne. L'ONG a réclamé hier qu'une enquête indépendante soit menée pour établir la vérité. L'armée israélienne a reconnu aujourd'hui une grave erreur et a annoncé avoir démis de leurs fonctions les responsables de la frappe.
Comment évolue le soutien des États-Unis à Israël ?
Depuis 1946, Israël a reçu près de 260 milliards de dollars d'aide militaire et économique de la part des États-Unis, selon un rapport du Congrès américain paru en mars. Au lendemain des attaques menées par l'organisation terroriste palestinienne Hamas le 7 octobre, Joe Biden a déclaré que les États-Unis continueraient de soutenir Israël, tout comme ils ont été les premiers à reconnaître son existence. Fin mars, les États-Unis se sont abstenus pour la première fois lors du vote d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu à Gaza, permettant ainsi son adoption. Les États-Unis avaient jusqu'alors bloqué plusieurs résolutions appelant à un cessez-le-feu. Le bureau du Premier ministre israélien a estimé dans un communiqué qu'il s'agissait d'un net recul par rapport à la position constante des États-Unis. Les États-Unis ont toutefois approuvé l'envoi de plus de 2000 bombes vers Israël lundi, selon les médias américains The Washington Post et CNN.
Quelle est la situation humanitaire dans la bande de Gaza ?
62% des habitations de la bande de Gaza ont été détruites ou endommagées depuis le début du conflit, selon un rapport de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, publié hier. Plus de 33 000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de l'enclave palestinienne. L'ensemble de la population de la bande de Gaza, soit 2,2 millions de personnes, subit une situation d'insécurité alimentaire grave et la famine est imminente dans la partie nord du territoire, selon un rapport publié mi-mars par l'IPC, un programme mis en place par l'ONU. Le Programme alimentaire mondial, une agence de l'ONU, affirme fournir une aide alimentaire d'urgence à 1,45 million de personnes dans la bande de Gaza chaque mois. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a exigé aujourd'hui l'arrêt de toute vente d'armes à Israël, mais il n'a pas de moyens pour imposer cette résolution.
Ça alors.
Toulouse opte pour une tarification saisonnière de l'eau.
Le Conseil des élus de Toulouse Métropole, l'établissement public qui regroupe Toulouse et 36 communes voisines, a voté hier en faveur d'une tarification saisonnière de l'eau pour inciter à l'économie, une première pour une grande métropole française. Le tarif saisonnier entrera en vigueur en juin et prévoit une hausse de 42% par rapport au tarif actuel du prix du mètre cube d'eau du 1er juin au 31 octobre et une baisse de 30% pour les 7 mois restants. 850 000 personnes seront concernées par cette nouvelle mesure. Le Conseil économique, social et environnemental, une institution indépendante chargée de conseiller le gouvernement, a estimé en novembre que la mise en place d'une tarification saisonnière était un moyen d'aller vers une sobriété des usages en eau. Un Français consomme environ 150 litres d'eau potable par jour, selon des données de 2023 du service statistique du ministère de la Transition écologique. Ce chiffre est plus ou moins stable depuis 2012.
Ça peut servir.
Le citron, cet allié du ménage de printemps.
En plus de sa richesse en vitamine C, le citron possède de nombreuses propriétés antiseptiques, désodorisantes et nettoyantes pour votre cuisine ou votre salle de bain. Ainsi, il est très utile pour nettoyer les dépôts de calcaire sur vos éviers et bouilloires. Vous pouvez aussi l'appliquer mélangé à de l'eau chaude sur le sol, les tapis ou les vêtements afin d'en enlever les taches. En cas de mauvaise odeur dans votre réfrigérateur, déposez un demi-citron pour les faire disparaître. Le citron, tout comme le vinaigre blanc et le savon noir, est un produit naturel, écologique qui peut remplacer nos produits ménagers classiques, rappelle l'Agence de la Transition écologique, un établissement public. Un produit ménager sur deux regorge de composés dangereux, dénonçait en 2020 l'Association de défense des consommateurs UFC Que Choisir.
Ça vaut un clic.
Magnifiques éclipses solaires.
Quand la lune cache le soleil, de splendides couleurs orangées apparaissent dans la pénombre, des croissants de lumière fendent le ciel et des milliers d'observateurs usent d'inventivité pour regarder le soleil brûlant. Alors que l'Amérique du Nord pourra profiter lundi prochain de la 15e éclipse solaire totale du 21e siècle, le magazine américain The Atlantic a réuni mardi une vingtaine de photos prises à travers le monde lors des éclipses précédentes. Attention aux yeux.
Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à rester bien luné.
Cette édition a été réalisée par Caroline Brognière, Nicolas Filiot, Laurent Mauriac et Marie-Lievine Michalik.